Vous écoutez RTL.
18h38, le deuxième invité de RTL Soir, Marc-Olivier Fogiel.
Deuxième invité d'RTL Soir, il a brisé le silence mais n'a pas perdu la foi. Bonsoir Daniel Pitté.
Bonsoir.
Dans Mon père, je vous pardonne, survivre à une enfance brisée, publié chez Philippe Ray, vous racontez donc comment un prêtre, le père Joël Halaz, vous a violé pendant 4 ans alors que vous n'aviez que 9 ans à Fribourg. Votre traumatisme également et votre reconstruction. Ce livre est préfacé par le pape François, post-facé par votre violeur, on va y venir. Tout d'abord, le fait que le pape François ait préfacé le livre, c'est la preuve qu'au plus haut niveau, l'Église est en train d'en finir avec l'omerta, vous diriez ?
Oui, tout à fait. Je pense, bon, le pape, je l'ai rencontré il y a 3 ans. Alors, je me suis dit pourquoi il ne ferait pas une préface pour ce livre. Et le pape donc, a décidé de faire cette préface et surtout de faire la publicité pour mon livre. Il m'avait demandé de faire ce livre en plusieurs langues. Mmh. Alors ça m'a encouragé, ce livre a été fait en 15 langues.
Quand vous devez raconter votre histoire, que vous allez nous raconter ce soir, ces 200 viols dont vous avez été victime par ce même homme, la façon dont un des représentants de l'Église a également d'une certaine manière abusé de vous, puisque quand vous êtes sorti du silence, plutôt que de l'écarter comme il vous l'avait promis, il l'a déplacé simplement pour le déplacer à Grenoble. Quand vous avez raconté tout ça au pape François, comment il a réagi ?
Bon, pour lui, c'était terrible. Parce que me voyant faire par rapport à ce livre, nous étions deux et nous avons fait ça en plus de 15 langues. Donc il a vu qu'on était des gens très déterminés, spécialement moi, et qu'il ne pouvait pas penser une seconde que j'avais été violé. Et là, c'était vraiment bouleversant. Le pape m'a regardé, il a fermé les yeux, moi aussi. On s'est embrassés et c'était un peu comme un père pour moi. Et il m'a beaucoup soutenu et il me soutient encore aujourd'hui pour faire toute la lumière sur tous ces gens qui violent dans l'Église.
Vous, Daniel, on va raconter votre histoire donc dans un instant, mais vous auriez pu évidemment rompre avec la foi et l'institution catholique. Vous avez fait tout le contraire. Est-ce que vous avez l'impression finalement que c'est votre chemin cette fois ? Vous auriez pu en être dégoûté ?
Tout à fait. Donc je pense que la majorité des gens qui ont été violés par des personnes d'Église, ils ne croient plus parce que vous voyez, c'est tellement inconcevable. Mais moi, j'ai eu une certaine chance. Donc à l'âge de 11 ans, j'ai assisté à une messe de mon violeur. C'était le 15 août à l'Assomption. Et là, j'ai entendu son sermon sur la Vierge Marie. Et ce qui m'a touché, c'est qu'il y a des gens qui pleuraient dans l'Église. Alors là, j'ai décidé, tout seul, comme un grand, que dans le fond, le prêtre qui était là, à côté de moi, c'était un prêtre. Et de l'autre côté, il y avait le cochon. C'était deux personnes différentes, et c'est ce jour-là que je lui ai pardonné. Alors vous me direz, quand on a 11 ans, comment on peut pardonner ? Ouais. Eh bien, je l'ai fait. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai fait. Et il m'a violé encore une année. Voilà, et j'ai pu quand même, mais j'ai beaucoup prié pour que je trouve une personne qui me sorte de cet enfer.
Alors on va raconter cet enfer. Daniel, vous êtes né le 10 juillet 1959 en Suisse. Votre père est violent. Vous vous installez à Fribourg avec votre mère et votre grand-mère. Et votre seule source de stabilité, à ce moment-là, on est d'accord, c'est la religion.
C'est ça.
Vous êtes pauvre, vous parvenez à vivre grâce à la générosité des sœurs, vous devenez donc servant de messe. Et vous dites, il se servait de la mécanique de la souffrance. Cette fragilité, vous diriez qu'elle attire des prédateurs comme le prêtre qui va abuser de vous ?
Tout à fait. Donc, les gens sentent aussi le plus fragile, celui qui a un peu plus de soucis, celui que moi j'étais très malade, j'avais des tas de problèmes de santé, bien sûr, j'avais pas de père à la maison. Ma grand-mère, quand j'ai annoncé qu'on était servants de messe, mes frères, donc à la cathédrale de Fribourg, ça a été une joie indicible, vous voyez, c'était comme si on montait dans la hiérarchie de l'Église. Et puis, ce capucin qui vient un jour dire la messe un samedi matin, dans cette cathédrale où il n'avait rien à y faire, eh bien, c'était mon chemin.
Votre chemin, un samedi, vous le dites, un samedi de juillet 1968, donc ce père Joël Halaz qui vous propose de venir chez lui au couvent pour vous montrer un merle qui parle. Vous ne vous méfiez pas, votre grand-mère accepte, il vous viole et vous écrivez « Je me retrouve dans la rue en miettes, j'ai 9 ans. Le choc s'est situé pour moi dans le premier geste, au moment où je suis pris par surprise. Je ne m'y attends pas, mon esprit n'est pas connecté à une agression potentielle. » Vous êtes pétrifié, Daniel.
Et voilà. Donc je sors de là-bas, je ne sais plus comment je m'appelle, mais il faut dire aussi que ce violeur, dans le fond, ce pédophile pervers, il n'est pas violent du tout. Mm-hmm. Il s'arrange justement pour que tout se passe au mieux, que je n'ai pas de marque surtout, donc il ne me bat pas du tout. Mais psychologiquement, c'est un homme qui est très fort. Et en général, les pédophiles sont assez forts et ils sont très manipulateurs. Et je veux aussi avoir quelque chose d'extraordinaire, c'est que le portier du couvent, m'a averti qu'il fallait plus venir. Il m'a dit, c'est un salaud, ne reviens plus. Mais voyez, il est venu me chercher à la maison, il s'est arrangé pour me voir très souvent.
Et vous, Daniel, pendant ces 4 ans, ces 200 viols, vous trouvez jamais la force, à un moment donné, de dire non? Qu'est-ce qui fait que vous rentrez dans cet engrenage et que vous n'arrivez pas à en sortir? Vous racontez dans le livre, vous devenez dépressif, on voit bien que vous perdez pied, mais qu'est-ce qui fait que vous ne vous en sortez pas?
Pour dire ça, d'abord, c'est terrible. Voyez, vous avez l'air d'un imbécile, d'un pauvre type, de ne pas pouvoir dire non. Mais pas, on peut pas. On peut pas parce que c'est tellement affreux. Il nous a violé une fois c'est déjà une fois de trop. Alors qu'il vous viole 200, 400 fois, ça n'a plus d'importance. Le premier geste est fait. Qu'est-ce que vous allez raconter ça à une famille brave, croyante? On priait le chapelet tous les jours chez nous à la maison, on allait à la messe. Voyez, c'était impossible.
Pourtant, un jour, en 1972, votre grande-tante devine quelque chose. Elle voit que vous n'allez pas bien. Elle vous interroge. Vous êtes tétanisé. Elle comprend. Elle vous interdit d'aller le voir. Vous lui dites à ce prêtre, il vous viole une dernière fois et ça s'arrête. Votre grande-tante, elle fait en sorte que vous n'alliez plus le voir, mais elle dénonce pas non plus ce prêtre-là. Elle vous en écarte seulement.
Alors ça, c'est une ancienne génération. Voyez, elle avait 80 ans quand elle a fait ça. Dans l'église, à l'époque, d'abord, on n'en parlait pas. Mm-hmm. Et puis, elle a fait ce qu'elle devait faire, dans le fond. Elle ne m'a pas traumatisé, elle ne m'a pas dit « t'as été violée », etc. Rien. Elle a simplement dit « qu'est-ce que tu vas faire là-bas ?» J'ai dit « je ne peux pas te dire, ma tante. Eh bien. » Puis si tu ne peux pas le dire, tu n'iras plus, tu es content. Oui, ma tante. Va lui dire. Je vais lui dire. Et puis qu'est-ce qu'il fait le père? Il me viole une dernière fois. Il me dit, de toute manière, je n'avais plus besoin de toi. Je voulais te confier à un autre prêtre.
En 1989, donc bien après, finalement, vous rencontrez deux catéchistes qui ont des soupçons sur le père Alas. Vous rencontrez Thibault, victime du prêtre. Et vous allez donc raconter aux responsables de l'officialité du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg ce que vous avez subi. Et donc, c'est là qu'il vous dit qu'il va le déplacer, ce prêtre. Vous, ça vous suffit? Vous ne voulez pas à ce moment-là que la justice s'en saisisse, obtenir réparation?
Oui, j'aurais bien aimé. Seulement, il faut vous rendre compte. J'ai été voir l'official. Je lui ai dit, écoutez, si vous ne faites pas ça, je dénonce. Et avec moi, j'ai été victime de ce père. On me croit. Donc on me croit, c'est déjà un immense miracle. Mmh. Et là, on me dit simplement, au bout de 2 semaines, écoutez, il sera déplacé, soigné, vous n'avez plus de soucis à vous faire, vous pouvez tourner la page. Et je m'en vais et je suis sûr qu'on s'occupe de lui et qu'il n'est plus dans la pastorale.
Sauf qu'en 2002, vous vous rendez compte que pas du tout. En fait, il est responsable de 7 paroisses à Grenoble. Là, vous allez demander réparation à l'église suisse, témoigner publiquement à la télé. Au total, c'est 150 enfants et personnes handicapées qui sont victimes de ce père-là. En 2008, la justice française a ouvert une enquête. Beaucoup de faits sont prescrits. Il a été condamné à 2 ans de prison avec sursis. Aujourd'hui, c'est un vieux monsieur qui vit en Suisse. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, l'originalité aussi de ce livre, c'est que il postface ce livre puisque votre co-auteur a été le rencontrer. Pourquoi ça a été important pour vous de lui donner également la parole à ce monstre, d'une certaine manière?
Moi, je ne pensais pas du tout lui donner la parole, bien sûr. Mais tout d'un coup, quand j'étais à Rome, discuter 2 mois avec le pape, et puis il me demandait si j'avais dit ça à mes enfants, je lui dis, mais oui, je l'aurais dit. Quelle était leur réaction? Oh, j'ai dit, c'est un peu mitigé, mais mon petit garçon a été le plus, disons, le plus... Il a 12 ans aujourd'hui, il était très chic. Il m'a dit, papa, ce que tu as vécu, c'est très dur, je te soutiendrai toujours. Donc ça m'a aussi beaucoup aidé, cette parole de mon fils Édouard. Ensuite de ça, on m'a demandé si mon violeur vivait toujours. Je ne savais pas. Donc j'ai demandé à l'évêque du lieu s'il avait eu affaire avec lui. Il m'a dit tout à fait, je l'ai vu il y a quelques semaines. Moi j'ai dit, j'aimerais bien qu'il aille aussi sa partie. C'est comme un divorce. Quand on entend les deux, ben, on arrive au milieu. Voilà. Alors je me suis dit, ben voilà, je vais lui laisser sa place à lui. Et je n'y ai pas été d'ailleurs. L'évêque et la journaliste a été pour prendre son témoignage. Et puis là, j'ai tout d'un coup découvert ce témoignage et j'ai décrété que j'irai le voir.
Vous l'avez donc rencontré en novembre dernier?
Voilà, parce que c'était horrible. J'ai vu, j'avais raison. Il était malade, psychiatriquement, bien sûr. Et puis que c'est un pauvre type. Et puis que je me suis dit, ce pauvre type, si je peux le voir avant qu'il meure, je serais content.
Vous, aujourd'hui, Daniel, pour conclure, vous le disiez, vous êtes père de famille. Vous avez pu reconstruire une vie, entre guillemets, normale. Vous dites dans le livre, aujourd'hui, je me sens libre. Vous allez bien?
Eh bien, voyez, le livre part maintenant, je vais plutôt bien. Surtout que j'ai décidé que l'argent que je ferai avec ce livre irait pour des enfants violés en Ukraine. Alors ça me pousse à aller vers les médias et être content, dans le sens où j'espère que ces enfants souffriront pas comme moi jusqu'à la fin de leur jour.
Daniel Pitté, mon père, je vous pardonne, survivre à une enfance brisée. Chez Philippe Rey, merci de votre témoignage.
Merci beaucoup.
Merci à vous.